ce soir, c'est le deuxième message de mes deux messages sur le Saint-Esprit. Le message précédent, c'était la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce soir, on va voir comment marcher selon l'Esprit ou par l'Esprit. Lorsqu'il est question du Saint-Esprit, les paroles de notre Seigneur Jésus sont essentielles et sont même fondatrices. La dernière fois, dans le premier message, on a vu des paroles de Jésus dans Jean chapitre 7, lorsqu'il a parlé des fleuves d'eau vive qui couleraient de notre sein. Il parlait de l'Esprit qu'on devait recevoir. Et puis en Jean 14, où il parlait du Consolateur qui nous serait envoyé à sa place, pour le remplacer, si on peut dire, puisque lui partait dans la gloire. Et ce soir encore, nous allons voir, pour commencer, les paroles fondatrices de Jésus-Christ. Et le premier se trouve en Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, verset 6. C'est tout simple. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et ici, dans la nouvelle Bible de Genève, « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ici, ils interprètent la chose, mais c'est vraiment ça le sens. Jésus, dans ce passage avec Nicodème, disait que pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître d'en haut et de nouveau. Et il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est humain, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ma nature humaine ne peut pas entrer dans le ciel tel qu'elle est. Elle est pécheresse. Il faut une nouvelle nature, il faut une nouvelle naissance, il faut même, on pourrait dire, une greffe d'une nouvelle nature pour voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, c'est ça, il faut naître de l'esprit pour être spirituel, pour être esprit, pour communiquer avec l'esprit de Dieu. Et donc, cette première parole du Seigneur nous montre qu'il y a deux natures, il y a la chair et l'esprit. La chair, c'est notre nature héritée de nos parents, que nous avons tous à la naissance. Et l'esprit, c'est la nouvelle nature divine qu'on reçoit quand on se repent et qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on reçoit donc lors de la conversion. Il y a deux natures, la chair, l'esprit, la vieille, la nouvelle. Et on va développer ça un peu plus tard. Mais il est clair que tant que nous demeurons sur terre, la chair et l'esprit sont en nous, toutes les deux, et elles sont opposées l'une à l'autre. La deuxième parole de Christ que j'aimerais voir, c'est Marc 14, 38. Qu'on retrouve dans Matthieu aussi. Une parole bien connue, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on retrouve l'esprit et la chair dans ces paroles de Jésus. L'esprit est bien disposé, l'esprit veut faire la volonté de Dieu, l'esprit veut faire le bien, mais la chair le tire vers le bas et la chair, elle, l'empêche souvent d'agir. On peut avoir une bonne volonté, des bons désirs, dire « aujourd'hui je vais faire du bien, aujourd'hui je vais obéir à Dieu, aujourd'hui je vais prier, aujourd'hui je vais lire la Bible, aujourd'hui je vais témoigner à quelqu'un » et puis votre chair, elle n'est pas disposée de la même façon et rien de tout cela n'arrive dans la journée parce que vous êtes conduit par la chair au lieu d'être conduit par l'esprit. Et Jésus nous a mis en garde « veillez, priez ». L'esprit, lui, est bien disposé, mais la chair est faible. Vivre la vie chrétienne par la chair, par ses propres forces, aboutit à une impasse. On ne peut pas. Vivre la vie chrétienne sous la loi aboutit à la même impasse. Il faut vivre la vie chrétienne par l'esprit. Et cela, nous allons le regarder de plus près parce que le Saint-Esprit a développé les paroles de Jésus dans un autre passage du Nouveau Testament. Et il s'agit de Galates chapitre 5. Donc si vous avez votre Bible, voudriez-vous vous déplacer en Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'à 26. Je vais lire dans cette version. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair, de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Passage essentiel du Nouveau Testament et pour la vie chrétienne. Si on n'a pas compris ces vérités, on ne peut pas progresser dans la vie chrétienne. Parce qu'on va essayer de mener la vie chrétienne par sa chair, par sa nature humaine, par ses forces, ou bien sous une loi, mais pas par l'esprit. Et il nous faut vraiment comprendre que la vie chrétienne doit être menée par l'esprit. Alors d'abord, les premiers versets 16 et 17, il nous parle lui aussi de deux natures qui s'opposent. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils sont opposés entre eux, ils ont des désirs contraires. La chair, c'est donc notre vieille nature héritée d'Adam, cette nature qui, dès la naissance, pêche et veut pécher. Les enfants mentent tout à fait naturellement. Dès qu'ils sont coincés, qu'ils ont besoin de se sortir d'une situation difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent. À partir d'un certain âge, il y a un âge où les enfants, au contraire, sont extrêmement francs et ils disent tout ce qu'ils font. Mais il y a un âge où la conscience commence à venir et malheureusement, la mauvaise conscience aussi et le mensonge entre. Et il n'y a pas besoin d'apprendre à faire du mal à qui que ce soit. C'est naturel. L'habileté, l'imagination pour faire le mal sont sans limite chez l'être humain. Il n'a même pas besoin d'école, d'université pour apprendre à faire du mal. Vous avez remarqué, il n'y a pas d'université pour faire du mal. Alors, certains disent que la prison est une sorte d'école du crime, mais ceux qui sont là, déjà, ils n'ont pas eu besoin de leçons. C'est ancré dans la nature humaine. Par contre, faire le bien, faire ce qui est juste, déjà, beaucoup de gens vous diraient, mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Déjà, on ne sait même pas ce qui est bien des fois. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. La chair, elle ne peut pas obéir à Dieu, elle ne le veut même pas, et cela, je le trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 7. La chair tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. La chair, notre nature humaine, n'est pas capable d'obéir à Dieu parce qu'elle est tout entière dans le péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas se sauver par ses propres forces. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu et c'est pour ça qu'il a fallu que Christ vienne, naisse sur la terre et meure pour nos péchés et ressuscite. Parce que si on pouvait se sauver soi-même, Jésus-Christ n'aurait jamais fait tout ça. Serait resté au ciel en disant, donnant des ordres, « Attention, ne péchez plus, Mais s'il est venu mourir et ressusciter, c'est parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Parce que la chair ne peut pas obéir à Dieu, c'est impossible. L'esprit, par contre, qu'on a reçu lorsqu'on s'est converti, lui, il ne peut pas pécher. C'est l'inverse. Lui, il aime Dieu, il aime les choses de Dieu, on l'avait vu la dernière fois. Il obéit au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de tout chrétien? Vous l'avez certainement expérimenté, peut-être tous les jours même. Il y a ce combat. La chair qui nous tire vers les choses du péché et l'esprit qui nous tire vers les choses de Dieu. Et il y a quelquefois des chrétiens totalement déchirés. Hein, une minute, ils sont spirituels et la minute suivante, ils sont charnels et ils vivent dans ce combat permanent. Dieu ne veut pas qu'on vive en permanence déchiré. Et s'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit un, qu'on soit en paix et que le Saint-Esprit vainque la chair. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les derniers versets, hein, si nous, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. C'est-à-dire, ils l'ont vaincu hein, par la croix. Mais il faut reconnaître que souvent, on a ce combat. Surtout quand on est nouveau chrétien, on découvre les choses de Dieu, de la Bible. Et on dit, oh, alors là, voilà ce que Dieu me demande et ma chair, elle m'attire. Et puis, à toute intersection, hein, on a ce choix, obéir à la chair ou obéir au Saint-Esprit. Et Dieu, et c'est ça que j'aime bien, nous appelle à être responsables. Il dit, marche selon l'esprit. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas marcher selon la chair et ça va mal se passer parce que la chair va t'entraîner au mal. Mais c'est notre responsabilité de marcher selon l'esprit. C'est mon choix. Est-ce que je veux marcher selon l'esprit? Est-ce que je veux être conduit par le Saint-Esprit ou conduit par ma vieille nature? Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? C'est en fait, vraiment, marcher, ça veut dire vivre tous les jours. Hein. Marcher, c'est très concret. C'est passer la journée, c'est l'activité, tout ce qu'on fait dans la journée par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on suit les indications du Saint-Esprit, les impulsions même du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vous rappelle ce que j'avais dit dans le premier message, il nous rappelle toujours les paroles de Jésus-Christ. Il est dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit ne nous donne pas des indications bizarres ou étranges, il nous donne des indications qui sont dans la Bible en fait. Il nous rappelle ce que les paroles de Christ nous ont enseigné dans la Bible. Si on n'est pas conduit par l'Esprit, on va faire ce que nous pensons être le meilleur, ce que notre chair nous invite à faire. Notre chair, elle a des pulsions, des passions, et ça va être plus fort que notre volonté, hein. Elle va nous entraîner là où on ne voudrait pas aller, et on va être un chrétien qui se sent coupable, un chrétien vaincu, un chrétien charnel, qui vit dans le péché, qui n'a pas de victoire sur le péché, alors que Christ a vaincu déjà pour lui. Et c'est tellement dommage, tellement dommage. Il y a donc une responsabilité de marcher par l'esprit, d'être conduit par l'esprit. Je pense qu'on peut vraiment faire une prière régulièrement, mais on peut la faire déjà une première fois. Saint-Esprit, conduis ma vie. Hein, on ne prie pas souvent le Saint-Esprit parce que je pense que Dieu ne l'a pas voulu spécialement, mais ce n'est pas interdit dans la Bible, néanmoins. Et on peut dire, Saint-Esprit, prends ma vie, conduis-moi aujourd'hui, et que la chair hein, soit anéantie, crucifiée aujourd'hui pour moi, et que tes désirs à toi remplissent mon cœur. Si on ne fait pas ce choix, quel va être le choix par défaut, comme on dit? La chair. C'est ça qui vient par défaut. Donc, il y a de notre part quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il donne cet ordre. Marcher par l'esprit. C'est un ordre, c'est un commandement, on pourrait dire. Au verset 18, il dit, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ce que j'ai déjà dit un peu au début, c'est que être conduit par l'Esprit, ce n'est pas être sous une loi. Il y a des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, ce sont des commandements et des interdits. D'ailleurs, une grande, grande majorité de croyants monothéistes dans le monde vivent comme ça, sous une loi avec quelques commandements et quelques interdits. Et plus on est intégriste, plus on a de commandements et d'interdits, plus la liste est longue. Mais si on est un chrétien musulman juif de tradition, on a 4 ou 5 interdits, 4 ou 5 commandements, et avec ça, on dit, avec ça, j'irai au paradis, c'est sûr. Hein, c'est terrible de penser ça, c'est une illusion totale. Hein. La loi, qu'est-ce qu'elle a ? La loi, elle est externe, elle est de l'extérieur, elle nous dit, fais ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est la loi de Dieu à l'extérieur. Et quand elle parle comme ça, qui est-ce qui l'entend et qui réagit ? La chair. Et on voit dans la Bible que la loi révèle le péché, en fait, la loi de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vous dit « ne fais pas ça », la chair, elle dit « si je veux le faire ». Ne marchez pas dans l'herbe, on va dans l'herbe. Ne vous asseyez pas ici, on s'assoit ici. Là, le français est un artiste hein, dans ce domaine, un champion de braver les interdits. Et les gens disent, mais pourquoi ce sera interdit? Pourquoi j'aurai pas le droit? Mais enfin, voilà. Et ça, c'est la chair qui réagit. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Donc, quand la loi dit quelque chose, la chair dit, non, je vais faire l'inverse, elle se rebelle. Et donc, si on veut marcher sous la loi, on est en échec permanent. Parce que la loi dit, fais ci, et nous, on dit, non. Voilà, fais ça, non. Et donc, le chrétien ne peut pas avancer sous la loi. C'est pour ça que c'est très, ça revient beaucoup hein, dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la grâce. Nous marchons par l'Esprit. Est-ce que ça veut dire que la loi est abolie ? Non. La loi est toujours importante. La Bible est toujours là. Mais la loi n'est pas vécue comme quelque chose d'extérieur. Elle doit être à l'intérieur. La dernière fois, dans le premier message, j'avais dit que Dieu avait prophétisé par Jérémie et Ézéchiel qu'un jour il écrirait sa loi dans nos cœurs. Eh bien, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il obéit toujours à la loi. Tout ce qu'il fait est conforme à la loi de Christ et la loi de Dieu. Donc, si je suis conduit par l'Esprit, automatiquement, qu'est-ce que je fais ? Je marche dans la loi de Dieu. J'accomplis la loi de Dieu. Et ça ne devient plus quelque chose de pénible en me disant, oh là là, voilà, Dieu me demande ça, je n'ai pas envie. Non, ah, chic, on va faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me booste, qui me porte. Jean 5, 3 dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. J'aime bien ce verset. Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles ? Si on marche dans l'amour de Dieu, si on est conduit par l'Esprit. Sinon, les commandements sont pas seulement pénibles, ils sont impossibles. Soyez saints comme je suis saint. Quand Jésus dit « Celui qui convoite une femme l'a déjà commis l'adultère avec elle, rien qu'en la regardant. Celui qui a des mauvaises pensées contre son frère est déjà un meurtrier. » On est tous coupables, condamné devant la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait la grâce hein, de Jésus-Christ. Mais maintenant qu'on est sauvé, on ne doit pas revenir sous la loi, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Il vient maintenant une grande question. Comment reconnaître ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'Esprit ? Comment savoir si je suis guidé par la chair ou si je suis conduit par l'esprit. Parce que la chair est très maligne. Parfois, elle peut avoir des airs spirituels. La chair peut prier. La chair peut chanter des louanges de Dieu. La chair peut prêcher. La chair peut parler de Jésus-Christ hein, aux autres. Mais c'est la chair, c'est-à-dire, elle le fait pour sa gloire, pour son orgueil, dans un mauvais esprit. On va prier pour son orgueil, on va chanter pour son orgueil, on va prêcher par orgueil pour se montrer et non plus pour glorifier le Seigneur. On va témoigner avec un esprit charnel, c'est-à-dire, on ne va pas écouter l'autre, on va lui dire les choses, asséner des vérités, sans l'écouter, sans chercher à l'amener à Christ. Et tout ça, c'est charnel. Attention donc. Ce n'est pas parce que ce que je fais est religieux que c'est spirituel. Alors, pour nous aider dans cette reconnaissance, le Saint-Esprit a inspiré Paul d'écrire les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit. C'est donc les versets suivants de Galates 5, versets 19 à 21, on a les œuvres de la chair. Je vais vous les lire encore dans la version de la nouvelle édition Genève. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, dans cette liste, il y a des choses étonnantes. Il y a des choses qu'on attendait, l'immoralité sexuelle, la débauche, la fornication, l'adultère, on dit, bon, ça c'est la chair. La chair est très sexuelle, elle cherche tout le temps à convoiter l'autre, hein, et elle a détourné la sexualité que Dieu a créée pour en faire quelque chose d'avilissant et d'impur. Mais il y a une autre forme charnelle à laquelle on s'attend moins, c'est l'idolâtrie spirituelle. Il dit l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire tout ce qui est de l'occultisme est charnel aussi. Les horoscopes, la voyance, tout ce qui est magie, tout ce qui est adoration d'idoles, hein, de chercher auprès d'autres que Dieu, c'est aussi charnel. C'est les œuvres de la chair. La chair va vous porter en dehors de Dieu. Elle va vous porter vers les choses sataniques, mais aussi, pas forcément sataniques, mais vers des idoles. Mais elle ne va jamais vous approcher plus près de Dieu et de Jésus-Christ, hein, et encore moins du Saint-Esprit. Et puis, la troisième chose, alors qui est encore plus étonnante, c'est tous ces mots qui décrivent les divisions. Vous avez remarqué tous ces synonymes ? Ça commence avec les haines, querelles, jalousie, colère, rivalité, division, secte. Moi, j'ai sept mots là. Sept mots pour dire à peu près la même chose. L'esprit de faction, l'esprit de querelle, de vindicte, de vengeance, de haine. Et ça, c'est une œuvre charnelle très fréquente chez les êtres humains. Le manque d'amour et la volonté d'en découdre. Il faut qu'on se batte. Hein, c'est pourquoi il y a toujours des guerres, c'est parce que la guerre est dans le cœur humain, dit quelqu'un. La guerre est dans la chair. Et si on ne peut pas faire la guerre contre des ennemis extérieurs, on va faire la guerre à l'intérieur, dans la famille, au bureau, dans l'église. Tout est bon pour la chair, du moment qu'elle peut avoir son lot de guerre. La chair est avide de choses comme ça. Elle se nourrit de haine, de vengeance, elle remâche les choses avec délice. Alors que l'Esprit de Dieu a horreur de ces choses. Tout ce qui divise le corps de Christ, tout ce qui divise la famille, tout ce qui divise les êtres humains, le hérisse. Le Saint-Esprit est pour l'amour, l'unité, et la chair est pour la division, les sectes, les querelles sans fin. Et donc ça, c'est un bon signe de voir si je marche dans la chair ou dans l'esprit. Est-ce que je suis animé par un esprit de division, de querelle, d'orgueil, hein, en gros ? Est-ce que je veux prouver que j'ai raison au-dessus de tout le monde ? Je pense à ce qui s'était passé dans l'église de Corinthe, il y avait de terribles querelles, il y avait les fans des apôtres, les fans de Pierre, les fans de Paul, les fans d'autres, et il y avait des clans, des partis comme ça dans l'église, les fans de machin, les fans de trucs, et il y avait finalement des querelles entre clans pour des peccadilles, pour des choses vraiment honteuses et futiles, et il a fallu que Paul écrive deux épîtres pour arriver à faire quelque chose avec ces Corinthiens, à les redresser. Et dans un autre passage, hein, il dit que la sagesse humaine est charnelle, diabolique et qu'elle ne cherche pas la paix. Hein? Alors que la sagesse de Dieu est pacifique. Et là, il y a quelque chose de très important, hein? C'est que la sagesse humaine de la chair, elle va vouloir diviser, casser, briser, écraser l'autre. La sagesse de Dieu, elle est pacifique. Et donc, on peut voir si on est conduit par l'esprit ou par la chair. Quel esprit nous anime? Quelle mentalité nous avons, en fait, hein? Est-ce qu'on aime les choses impures? Est-ce qu'on se baigne dans les choses impures, dans les querelles, dans les divisions? Est-ce qu'on est tout le temps en train de voir ce qu'on peut critiquer, ce qu'on peut démolir? Ou est-ce qu'on cherche ce qui édifie, ce qui construit? Est-ce qu'on se laisse aller, justement, à l'immoralité? Ça, c'est quelque chose qui souille tout le corps, hein, et toute la vie d'un chrétien. Et on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et être en même temps rempli de pornographie ou d'immoralité ou de pensées impures. Et là, le Seigneur veut vraiment donner aux chrétiens la victoire, la liberté par le Saint-Esprit. Il faut être conduit par l'Esprit et pas par les œuvres de la chair. On remarque en fait que les œuvres de la chair, c'est un manque de maîtrise. C'est une convoitise effréné. On convoite l'immoralité, hein, on convoite les idoles, on convoite tout. On n'est pas maître de soi, on ne cherche pas à être mûr, adulte, à chercher le bien de l'autre, on cherche juste à se satisfaire soi. Ça, c'est la chair. Moi, 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 moi. Hein, le mot latin pour ça, c'est l'ego, hein, on a parlé de l'ego, c'est-à-dire le moi. Lorsque le moi est gonflé, enflé, ça devient un monstre. Nous avons notre personnalité, nous avons notre volonté, nous avons notre âme, et elle est précieuse aux yeux de Dieu, mais elle doit être soumise à Christ. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, en voulant expliquer la plénitude du Saint-Esprit, hein, donnent le schéma du trône. Qui est sur le trône de votre vie? Est-ce que c'est votre moi? Et en dessous, il y a Jésus-Christ qui doit obéir à votre moi, c'est-à-dire « Donne-moi ci, donne-moi ça, réponds à mes prières, fais ci pour moi, fais ça pour moi. » Ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui est sur le trône et votre moi est en dessous « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Hein, j'aime bien la phrase de Kennedy, hein, « Ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. » On en a besoin encore aujourd'hui. Pour chacun de nos pays, mais on peut le dire à Dieu. Ne demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui, puisque vous avez son esprit. Après les œuvres de la chair, il nous parle du fruit de l'esprit. Vous remarquez qu'il y a, c'est pas la même expression, c'est pas les œuvres de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Un fruit, c'est quelque chose que vous ne produisez pas vous-même. Un fruit, c'est le résultat d'un processus, d'une sève qui coule dans des branches et qui produit des fruits. C'est comme ça que ça arrive, les fruits. Il y a la sève, les branches et les fruits arrivent. Si la sève coule bien, les fruits sont beaux. L'image que Jésus nous a donnée, c'est le cep et les sarments. C'est une très bonne image, d'abord parce qu'il y en avait beaucoup en Israël, mais aussi parce que c'est très clair. Si vous ne taillez pas les branches, si vous ne les entretenez pas, Les raisins sont ridicules. Hein? Vous avez des petits raisins, vous avez raté votre récolte. Alors qu'il y a d'autres arbres, bon, vous pouvez les laisser, ça va donner. Mais la vigne, oulala, il faut s'en occuper. Et si la sève ne coule plus correctement, les fruits sont rabougris. Et il y a beaucoup de chrétiens avec des petits fruits rabougris parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit conduire leur vie, leur donner du fruit. Le fruit de l'esprit, et pourtant il y a plusieurs là, hein, l'amour, la joie, la paix. Pourquoi il appelle ça le fruit? Parce que c'est un fruit avec plusieurs grains, une grappe. Ce n'est pas que Dieu va vous donner l'amour, et puis ensuite, quand vous aurez bien de l'amour, il vous donnera de la joie, et quand vous aurez pas mal de joie, il vous donnera de la paix. Non, le fruit de l'esprit, c'est tout en même temps. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous avez les neuf là, hein. Tout ça vient en même temps. Et si vous avez l'amour mais pas de joie, si vous avez la patience mais pas de bonté, Il y a un problème dans votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit produit ce fruit en abondance. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, a dit Jésus. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les branches, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4 et 5. Celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix. En fait, qu'est-ce qu'on attend de la vie chrétienne ? C'est ce fruit qu'on attend. Si j'ai le Saint-Esprit, il doit y avoir de l'amour dans ma vie, de la joie, de la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur. C'est ça qu'on attend d'un chrétien qui a le Saint-Esprit. Et si on se satisfait en disant « Ah, moi, j'ai un tout petit peu d'amour, pas beaucoup de joie, la patience, alors là... » C'est raté. J'ai un peu de bonté, de temps en temps. J'ai des accès, ou je ne sais pas comment dire. Non, ça, ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne, on est rempli du Saint-Esprit, on a du fruit en abondance. Beaucoup de fruits, dit Jésus. Beaucoup de fruits. Ce qui est intéressant dans le fruit, là, c'est qu'il y a une partie intérieure et une partie pour les autres. Une partie pour soi, une partie pour les autres. Par exemple, la joie, c'est pour nous la joie, premièrement, disons. Hein, d'avoir de la joie, c'est personnel, ça nous encourage. La paix, ben c'est notre paix, on est content d'être dans la paix, d'avoir la paix du Seigneur. La maîtrise de soi, c'est aussi nous, hein, c'est comment on maîtrise notre vie pour ne pas être entraîné justement par les péchés de la chair. La foi, c'est aussi personnel. Et puis, l'amour par contre, c'est pas l'amour pour soi dont il parle, hein. On en a assez naturellement. C'est l'amour pour les autres. La patience, ben c'est pas pour soi la patience, c'est par rapport aux autres la patience. Est-ce que je suis patient avec mon prochain ? La bonté, encore une fois, la bonté c'est pour les autres. La bienveillance, de chercher le bien des autres, ça aussi c'est pour les autres. Et la douceur également, c'est pas pour soi qu'on est doux, c'est dans nos attitudes, notre comportement avec les autres. Donc vous avez vu dans ce fruit, il y a des choses pour nous et des choses pour les autres. Et j'aime bien parce que Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on soit dans la paix, dans la joie, mais il veut aussi qu'on donne, qu'on soit dans l'amour. Le premier mot, c'est quand même l'amour. C'est la plus grande de ces choses. D'ailleurs, toutes les autres sont réunies dans l'amour. Dieu est amour. Christ a prouvé l'amour de Dieu en donnant sa vie pour nous. Si nous avons ce fruit, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous serons un chrétien qui glorifie Dieu, un chrétien épanoui, et peu importe le reste de votre vie, c'est-à-dire peu importe que vous soyez pauvre ou riche, éprouvé ou pas éprouvé, seul ou pas seul, si vous avez le fruit de l'Esprit, vous êtes épanoui et satisfait. Parce que, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous retrouver au fond d'un cachot, le fruit de l'esprit va agir au fond de votre cachot. Vous pouvez être au milieu d'une famille nombreuse avec 30 personnes, un repas familial, si vous avez le fruit de l'esprit, il va se manifester dans cette famille, dans cette joie familiale. Peu importe vos circonstances, votre âge, votre sexe, votre pays d'origine, peu importe. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on soit conduit par l'Esprit. Alors, vous êtes d'accord avec moi, les œuvres de la chair sont quand même répugnantes, repoussantes, mais on les accepte tellement dans nos cœurs déjà. Ça commence toujours dans le cœur, dans la pensée, puis après, ça sort. Si on est conduit par l'Esprit, la chair va de moins en moins se montrer. Plus on nourrit le Saint-Esprit en nous, plus la chair n'a plus rien à dire. Quand il dit « les chrétiens ont crucifié la chair avec ses passions », ceux qui sont conduits par l'Esprit, hein, c'est que la chair ne fait plus recette. Je ne sais pas comment dire par où il faut passer, mais pour que la chair ne fasse plus recette. C'est-à-dire que on dit, les convoitises de ce monde, c'est tellement bas par rapport à la plénitude de l'esprit. Que... Et je pense qu'il faut avoir goûté à cette plénitude de l'amour, la joie, la paix, hein, pour se rendre compte que les œuvres de la chair sont viles, basses, répugnantes. Tant qu'on n'a pas goûté à la plénitude du Saint-Esprit, on essaie de se faire valoir, on essaie de se faire connaître, de se faire admirer. Alors là, oh, les sectes, l'envie, là, tout ça, ça y est, les œuvres de la chair essaient de nous faire monter en grade. Mais quand on a compris que la joie, c'est dans l'humilité, que dans l'amour pour les autres, on trouve le bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, toutes ces œuvres de la chair ne nous intéressent plus. Et on est dans le fruit de l'esprit. Bien sûr, ça peut arriver, un chrétien, comme toujours, de chuter, d'avoir un coup charnel. Mais s'il est conduit de plus en plus par le Saint-Esprit, il sera de moins en moins charnel. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre petit à petit, tous les jours, et cette personne va ressembler à Christ de plus en plus. C'est ça le but du chrétien, ressembler à Christ. Pas physiquement, mais dans son caractère. Est-ce que nous progressons dans ce domaine? Ou est-ce que nous sommes plus des animaux, plus des chrétiens charnels que des chrétiens de Christ? Que le Seigneur nous aide à saisir ces vérités et à les vivre tous les jours. Merci de votre attention.